Frères et sœurs bien-aimés, j'ai tenté de trouver quelque chose qui unisse les différentes lectures de ce jour, comme un fil rouge. Et je me suis dit, mais peut-être vous aurez une autre option, c'est tout à fait votre droit, je me suis dit que c'est peut-être la question de porter du fruit, la question de la fécondité de nos vies. Nous avons dans l'Évangile cette parabole du figuier qui ne porte pas du fruit, et nous avons la parabole aussi de ceux qui se tournent vers autre chose que le Seigneur. Peut-être que nous pourrions, à travers ces lectures, trouver quelque chose qui nous aide à la question de la fécondité de nos vies. Parce que c'est une vraie question dans nos vies. En quoi nos vies portent du fruit et un fruit qui demeure? J'aimerais partir de la première lecture. La première lecture, nous la connaissons bien, la lecture de Moïse face au buisson ardent. Porter du fruit dans sa vie, comme Moïse l'a fait, c'est accepter de passer par des détours. Vous vous rappelez, dans la première lecture, à un moment donné, Moïse a fait un détour. Il n'a pas suivi son chemin habituel, il a fait un détour, et parce qu'il a fait un détour, il a rencontré le buisson ardent. Des détours dans la vie de Moïse, il y en a eu beaucoup. Déjà au début de sa vie, sa naissance, vous le savez, il a été sauvé des eaux. Moïse, c'est un nom païen, égyptien, ce n'est pas un nom hébreu. Il a été sauvé par la fille de Pharaon, et qui a été touché par cet enfant qui était porté par les flots, et qu'elle a confié ensuite à une nourrice qui se trouvait être sa mère. Mais ensuite, des détours, Moïse en a fait beaucoup dans sa vie. Des détours, d'abord parce qu'il il a épousé une fille de Madian, et son beau-père est prêtre de Madian. Alors pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup, mais c'est énorme. Je veux dire, c'est un païen. Il a épousé une fille d'un prêtre païen, d'un prêtre idolâtre, au regard de la loi juive. Et c'est intéressant de voir que Moïse, il a fait un certain nombre de détours, et puis dans l'épisode du buisson ardent, il était pasteur des brebis de son beau-père, et il allait son chemin, etc. À un moment donné, il y a quelque chose qui attirait son attention. Et c'est là qu'il a fait la rencontre avec la buisson ardent. Je me dis, dans nos vies, le fait de porter du fruit, ça demande de faire un détour. Ça demande de se laisser sortir de sa zone de confort. Ça demande, au fond, de laisser nos certitudes pour accueillir le plan de Dieu. Parce que c'est ce que Moïse a fait, et on voit bien au cours ensuite de la vie de Moïse, on pense bien aux 40 ans dans le désert, le fait de sortir Israël du peuple, Israël son peuple de l'exil, voilà, de l'esclavage. Bon, on sent bien qu'il y a eu quelque chose qui fait que lui-même a dû ensuite 40 ans dans le désert. Je veux dire, il est passé par des tas de discernements, par des tas de détours, par des tas de contours qui fait que, dans nos vies, au fond, est-ce que porter du fruit, c'est pas accueillir les détours, pas accueillir ce qui est improbable, pas accueillir ce qu'on n'aurait pas prévu, pas accueillir, au fond, ce que on avait nos plans, et puis ensuite, le Seigneur, à travers nos existences singulières, nous trace une voie différente. J'aime bien méditer sur la vie de Saint Joseph, et vous êtes un groupe d'hommes qui venez en retraite pour méditer sur la paternité, et puis sur votre vie d'homme. J'aime bien la vie de Saint-Joseph. Et mercredi dernier, j'étais en face des associations familiales catholiques et on me demandait de parler de la paternité selon Saint-Joseph. La paternité selon Saint-Joseph, c'est complexe. C'est complexe. Voilà un homme qui a accepté de se laisser déranger. Qu'est-ce que c'est que la Sainte Famille? Une fiancée enceinte d'un père mystérieux, et le mari n'est pas le père. Qui d'entre vous souhaiterait un tel destin pour sa fille? Et c'est là où j'ai posé la question aux chères associations familiales catholiques qui avaient en grande estime la Sainte Famille. Je lui ai dit, mais est-ce que votre fille est enceinte avant le mariage? Est-ce que c'est bien catholique? Est-ce qu'elle est d'un père mystérieux et le mari n'est pas le père? Et là, tout de suite, j'ai senti comme un vide en face de moi. Je me suis dit, tiens, Non, c'est pas comme ça qu'on voit le mariage de notre fille. Et pourtant, c'est comme ça qu'est la Sainte Famille. La Sainte Famille fait un détour. Et Saint Joseph est un saint parce qu'il accepte d'accueillir le plan de Dieu dans sa vie, qui n'est pas ce qu'il pensait. N'oubliez pas qu'être enceinte avant le mariage, dans l'ancienne alliance, ça ne plaisantait pas du tout. Dans Deutéronome, la fille est lapidée devant la maison de ses parents quand elle est enceinte avant le mariage. Et Saint Joseph, il accueille, il dit au fond, j'accueille cette... C'est vrai que ce n'est pas intuitif. Quand votre fiancé vous dit, je n'ai jamais été fiancé, mais quand votre fiancé vous dit, ben, je suis enceinte, mais du Saint-Esprit, ou pas, je veux dire, c'est complexe, je veux dire, reconnaissons-le humblement, c'est quand même complexe. Et pourtant, Saint Joseph, il est un grand saint, parce que précisément, il a accepté cette complexité. Est-ce qu'au fond, porter du fruit dans notre vie, c'est pas accepter la complexité, accepter ce qu'a fait Moïse, passer par un détour. Un détour qui fait qu'il a découvert que dans sa vie, il n'y avait pas qu'un seul chemin, il y a plusieurs chemins. Et que lui-même doit son existence à l'amour des autres, à l'amour de cette fille de Pharaon, païenne, à l'amour de sa femme, païenne, de son beau-père, Jéthro, païen. Tout ça n'est pas très cachère. Et il a accepté ça. Et ensuite, c'est parce qu'il a accepté ça que lui a été confiée la mission de sortir de l'esclavage le peuple d'Israël. C'est parce qu'il a accepté de se laisser déplacer intérieurement. Il a accepté de se laisser déranger intérieurement. Vous voyez, il a accepté, au fond, un autre plan que celui qu'il s'était prévu. Hein, lui qui est hébreu, fils d'hébreu, mais bon, mais la vie en a décidé autrement. Je trouve que dans nos vies, dans nos existences, c'est beaucoup comme Moïse. On passe par des détours. Nos existences sont complexes. Nos familles sont complexes. Si vous désespérez de vos familles, lisez la Bible, parce que ça vous rassurera. Toutes les familles dans la Bible sont dysfonctionnelles, comme disent les psychologues, elles sont toutes dysfonctionnelles. Évidemment, on pense à cette... Est-ce que votre mari est venu ici, mu par des voies intérieures, pour offrir son fils en sacrifice sur l'autel à Noumont le Fuselier? Pas encore. Abraham, Isaac. Est-ce que votre fille a été... d'une certaine manière, donnée, voilà, avec, je pense, à votre belle-fille, vous savez, la tribu de Juda, la maison de David. Jésus, par Joseph, est de la maison de David. C'est intéressant. La maison de David, c'est un rapport compliqué à la paternité. C'est un rapport compliqué à la paternité. Vous vous rappelez, la maison de David, hein, c'est la tribu de Juda. Juda, la Judée, donc la cité de David, c'est Jérusalem, donc... Mais au tout début de la vie de David, de la maison de David, c'est compliqué, parce qu'il y avait trois hommes et un est décédé sans descendance. Le deuxième, Onan, ne voulait pas avoir d'enfant et jeter sa semence sur la terre. Et puis finalement, la belle-fille du premier a usé de subterfuge et déguisé en prostituée pour s'unir à son beau-père et obtenir de son beau-père une descendance. Donc, on va dire que c'est complexe, la tribu de David, et David lui-même, entre les enfants qu'on ne veut pas avoir et les enfants qu'on ne veut pas reconnaître. David, il avait un enfant qu'il ne voulait pas reconnaître. Hein, il s'est uni avec la femme de Uri, le Hittite, et qu'il a envoyé à la mort, il a pas, jusqu'à ce que Nathan lui a dit, ben voilà, un riche a pris la brebis d'un pauvre, et puis ensuite, cet homme-là, dit Nathan, mérite la mort, et cet homme-là, c'est toi, il a dit à David. C'est intéressant de dire, la question de la paternité dans la maison de David, c'est complexe. Et Jésus est de la maison de David, par Joseph. Donc, quelque chose qui est contre-intuitif de certaine manière. Voilà, un père mystérieux et un père qui éduque un enfant qui n'est pas le sien au plan biologique, ben, c'est une famille très moderne. La Sainte Famille, c'est une famille très actuelle. Beaucoup d'hommes éduquent des enfants qui ne sont pas les leurs. Hein, ce qu'on appelle les beaux-pères, hein, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas des vrais transmetteurs de vie par leur amour. Je trouve ça intéressant de voir comme la parole de Dieu nous déplace, nous emmène loin de nos certitudes, nous emmène loin de nos schémas un peu touffés, issus du 19e siècle un peu bourgeois, voilà, où on pense que la paternité, c'est absolument inscrit de tous les siècles. Ben non, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'être père, c'est complexe. Et c'était complexe pour Saint-Joseph, ça a été complexe aussi pour le Seigneur d'accueillir Saint-Joseph comme père, lui sachant qu'il était fils de Dieu. Donc, au fond, la parole de Dieu, le fait de porter du fruit, c'est rentrer dans une complexité. C'est complexifier les choses alors qu'on les voudrait simples. Et c'est là où Jésus est très fort. Il dit, est-ce que vous pensez que ceux qui sont morts des Galiléens, parce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres, et Jésus leur lui dit, non, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. C'est-à-dire, si vous ne vous retournez pas vers quelque chose qui va au-delà de votre cohérence morale, ce n'est pas de votre cohérence morale que vous aurez le salut. Ce n'est pas votre cohérence personnelle qui vous donne le salut. C'est vraiment rentrer dans quelque chose qui est autre, rentrer dans un accueil de la transcendance. La transcendance qui est face à Moïse et face à son buisson. Parce que qu'est-ce que c'est que Moïse et le buisson ardent? C'est la rencontre avec la transcendance. Ça, c'est intéressant de dire. La rencontre avec la transcendance fait que Moïse découvre dans sa vie une fécondité. Reprenez le texte de la première lecture. La terre où tu te tiens est une terre sacrée. Ce n'est pas la terre du buisson. C'est la terre où tu te tiens. Oui, la terre où le buisson et la terre où tu te tiens. C'est-à-dire, là où tu te tiens, c'est une terre sacrée. C'est une terre de vie. C'est une terre qui est porteuse de vie. Et je vous propose un exercice spirituel que chacun d'entre nous regardons nos pieds et nous puissions intérieurement poser ce regard. La terre où tu te tiens est une terre sacrée. C'est facile dans une église, mais si vous répétez cet exercice 3 fois par jour, je vous assure que votre vie spirituelle, elle décolle. Parce que vous découvrirez que là où vous vous tenez, c'est une terre sacrée. Non pas par vous, mais par la transcendance qui vous habite. Parce qu'à la différence de Moïse et de l'Ancienne Alliance, nous croyons que cette transcendance, elle nous habite. C'est la grâce du baptême. C'est la grâce du buisson ardent, et la Vierge Marie a été comparée à ce buisson ardent que vit Moïse, hein, et qui ne se consumait pas, Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est intéressant de voir au fond comment la vie chrétienne nous fait découvrir la transcendance comme habitant notre propre cœur. C'est ce que dit le grand saint Augustin, hein, nous portons en nous-mêmes un Dieu plus intime que nous-mêmes. Et je pense que le fait de découvrir cette transcendance qui sanctifie là où nous sommes, qui donne vie là où nous sommes, la terre où tu habites, la terre où tu es, est une terre sacrée. C'est-à-dire que quel que soit le lieu où tu es, eh bien le Seigneur est avec toi. C'est ça être disciple de Jésus. C'est porter en soi-même plus que soi-même. C'est ça. Nous sommes la religion du vertige. Nous sommes la religion de la transcendance. Nous sommes la religion de la disproportion. C'est ça, être disciple de Jésus. Et découvrir ça, ça a des conséquences considérables dans notre vie. Parce qu'on découvre aussi que le Seigneur, eh bien, là où nous sommes, le Seigneur agit si nous vivons de l'Esprit de Dieu, dont nous sommes les temples. Alors oui, c'est quelque chose de tellement beau, tellement extraordinaire, la vie chrétienne. Plus que Moïse, qui a le buisson ardent en face de lui, nous l'avons à l'intérieur. Ce n'est pas la cohérence morale de ta vie qui va te sauver, c'est la présence de Dieu en toi. Cette présence qui est plus intime à toi-même que toi-même, qui te sauve. Et faire l'expérience de cette présence de Dieu, c'est faire l'expérience d'une transcendance, d'un au-delà de soi-même, d'un toujours plus, d'un chemin, d'un ailleurs. Et cette expérience de la présence de Dieu nous aide dans la vie quotidienne. C'est notre grâce, nos disciples de Jésus. C'est vraiment, et nous sommes les seuls à penser ça. Nous sommes les seuls. Les chrétiens, les disciples de Jésus, sont les seuls à croire qu'ils portent en eux-mêmes plus que nous-mêmes, qu'eux-mêmes. sont les seuls. Que ce soit dans le judaïsme, qui affirme la transcendance dans une diversité, que ce soit dans l'islam, ce n'est pas du tout la même raison d'être, la même manière d'être présent à Dieu. Et je me dis, où est-ce que nous en sommes, si nous voulons porter du fruit, de cette expérience intérieure de nous-mêmes, de la présence de Dieu en nous-mêmes? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous, en tout cas, que la question spirituelle reste une question ouverte pour chacun. Que la question spirituelle reste une question ouverte pour chacun. Je ne sais pas où vous en êtes de votre vie intérieure, mais ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le Seigneur nous attend au-dedans. Le Seigneur nous attend au-dedans. Et parce que le Seigneur nous attend au-dedans, il nous emmène à porter du fruit et un fruit qui demeure. Et c'est là où il y a un combat spirituel, vous voyez. Il y a un combat intérieur, le fait de rentrer dans une intériorité, de découvrir une présence qui est plus grande que nous-mêmes, et le fait de se laisser emmener par des forces centrifuges. Des forces centrifuges qui nous emmènent loin de nous-mêmes. Et ces forces centrifuges vont faire qu'au fond, on va s'éloigner de cette source de vie. On va s'éloigner de cette fécondité. Alors c'est vrai que le fait de porter du fruit, c'est le fruit d'un combat, c'est un combat intérieur. Et ça, nous le voyons au quotidien, dans notre vie, nous le voyons dans l'Évangile. Hein. Si vous ne vous tournez pas vers la vraie source de vie, vous périrez tous. Si vous ne convertissez pas. Vous savez que convertir, ça veut dire tourner vers. C'est ça que ça veut dire convertir. Tourner vers. Si vous ne vous tournez pas vers ce qui est source de vie, vous périrez tous. Vous tournez uniquement vers ce que vous savez. Pensez-vous que les Galiléens étaient les plus grands pêcheurs? Voilà. Oui, bon, ils étaient pêcheurs. Non, pas du tout. Si vous êtes uniquement dans une logique humaine, vous périrez tous. Je trouve ça intéressant de vous rappeler dans l'évangile de l'aveugle-né, les disciples posent la question, est-ce que ce sont ses parents ou lui-même qui ont péché? C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste, dit Jésus. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce logiciel de l'ancienne alliance qui fait que ces Galiléens, parce qu'ils ont péri parce qu'ils ont péché, si vous pensez ça, vous-même, vous êtes dans une logique de mort. J'interprète ça comme ça. Hein. Si vous pensez que les autres sont des méchants et vous êtes des gentils, vous êtes dans une logique de mort. Si vous êtes dans une logique binaire, vous êtes dans une logique de mort. Vous n'êtes pas à portée du fruit. Vous n'êtes pas à portée du fruit. Et Jésus dit, si vous ne vous tournez pas, convertir, se tourner vers ce qui est source de vie, c'est-à-dire la transcendance, l'arbre de vie, la présence de Dieu dans notre cœur, si vous ne tournez pas vers l'intériorité, vous périrez tous. Ben oui. Si on ne se tourne pas vers ce qui donne vie en nous, eh bien, on est des arbres morts, on est comme le figuier qui ne porte pas de fruits. Alors le Seigneur prend patience, bien sûr. Hein, laisse-le encore cette année, dit le vigneron, hein, et puis que je bêche, je puisse mettre du fumier. Peut-être dera-t-il du fruit à l'avenir. Oui. Vous savez que le figuier, la vigne, c'est l'image d'Israël, hein, aussi, de dire que le Seigneur est patient avec son peuple, comme il est patient avec nous. Eh bien, nous demandons la patience de Dieu dans notre vie. Et le carême, c'est demander la patience de Dieu pour que nous tournions vers ce qui est source de vie en nous, vers ce qui est vivant en nous. Parce que nous sommes attirés uniquement par des logiques humaines qui nous emmènent à la mort. Vous voyez, qui nous emmène à la mort. Je pense que des logiques où on pense que ça s'est toujours fait comme ça, on pense que voilà, des certitudes, mais qui nous emmènent loin de Dieu. Loin de Dieu. Hein? Je crois que ça. Il y a comme un enjeu dans la fécondité de nos vies. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui nous invite au déplacement. Au déplacement intérieur, à complexifier nos vies. Nos vies sont complexes. Dans cette complexité, Dieu trouve un chemin pour que nous puissions porter du fruit et un fruit en abondance. Cessons de croire en des vies simples où tout est tracé d'avance. Non, Moïse lui-même a fait un détour. Lui-même, Moïse, a fait un détour pour rencontrer la transcendance. N'est-ce pas aussi l'invitation pour nous, pour découvrir l'absolu de Dieu, de nous laisser déplacer intérieurement ? Hein ? Dans porter du fruit, il y a un combat intérieur. Renoncer à ce qui peut paraître simple, rentrer dans la complexité. C'est toute la vie du Seigneur, de Saint Joseph, de la Vierge Marie. Rentrer dans un chemin qu'on n'aurait peut-être pas choisi, mais qui est le nôtre. Et parce que c'est le nôtre, c'est un chemin de vie. Où que vous soyez dans votre vie intérieure, croyez que votre chemin est un chemin de vie si vous le tournez vers la transcendance, vers un absolu, vers un ailleurs. Avec Moïse, nous faisons un détour pour sauver notre peuple, pour que le salut advienne dans notre existence. Demandons au Seigneur, les uns pour les autres, que nous soyons assez forts pour choisir de porter un fruit, et un fruit qui demeure. Amen.